Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Notre invité aujourd'hui, c'est Sylvie Crossman, éditrice, écrivain, journaliste et qui parcourt souvent le monde à la recherche de personnalités tout à fait étonnante. Et là, comme elle le fait de temps en temps, elle a passé les Pyrénées et puis elle est allée en Espagne à la rencontre d'une femme assez extraordinaire, Manuela Carmena, qui est donc la personne qui a été élue, contre toute attente presque, tout récemment, maire de Madrid.
Alors,
donc Sylvie, vous avez utilisé pour faire ce livre qui s'appelle « Parce que les choses peuvent être différentes ». Donc, un livre qui était paru en Espagne il y a quelques années avant l'élection et auquel vous avez rajouté un chapitre où l'auteur explique comment il se fait qu'elle s'est retrouvée, elle, que rien ne prédestinait à cette tâche, comment elle s'est retrouvée candidate et puis élue maire de Madrid. Alors, comment, je suppose que vous avez fréquenté cette personne tout à fait atypique, comment est-ce que vous la décririez comme ça, rapidement, cette personne ?
Alors d'abord, c'est une femme qui a une grande épaisseur historique. Hein ? Et je pense qu'en ce sens-là, le livre peut aussi se lire comme l'autobiographie d'une femme extraordinaire.
Alors, il faut dire que ce n'est pas une jeune femme.
Ça n'est pas une jeune femme. Elle est entrée en politique donc pour la première fois à l'âge de 71 ans, hein, ce qui est quand même assez gonflé, n'ayant jamais fait de politique au sens propre. Alors, c'est une juge, une avocate d'abord qui s'est spécialisée pendant l'époque franquiste dans le droit du travail, le droit des ouvriers. C'est une femme qui a risqué sa peau. On l'oublie, mais en 1976, un an après la mort de Franco, a eu lieu un attentat falangiste, de la part des falangistes qui sont entrés dans son bureau pour se venger du travail qu'avait fait son cabinet depuis des années et des années. Par chance, si l'on peut dire, Manuela Carmena, ce jour-là, avait prêté son bureau à un ami, hélas, et tout son cabinet a été décimé, assassiné, par ces phalangistes qui sont venus se venger d'années et d'années de travail auprès des ouvriers. Donc, vous voyez, c'est ce personnage-là aussi. Donc, quand en juin 2014, les jeunes gens de Podemos, et pas seulement, c'est une coalition beaucoup plus large qui vient la chercher.
Les indignés en général.
Les indignés en général viennent dire à cette vieille dame, écoute, c'est toi qu'il nous faut, Manuela. Elle est d'abord un petit peu sceptique. Elle n'a jamais fait de politique, elle n'a jamais pensé à entrer en politique. Elle pense qu'elle est très bien là où elle est. Elle vient de se retirer. Elle a fondé une espèce de petite boutique où elle fait coudre des prisonniers, des anciens détenus. Elle vend ça, notamment des petites poupées de toutes les couleurs, des poupées noires, des poupées espagnoles, des poupées migrantes, si l'on peut dire, réfugiées. Et elle est très heureuse comme ça. Et alors, il se passe que c'est une dame qui a une grande culture aussi, et c'est une grande adepte de Kant. Et elle croit beaucoup à la morale intérieure. Elle croit que la morale ne se conçoit que comme un diktat intérieur, une volonté intérieure. Et quand on vient la chercher, elle dit non, elle répond non à Pablo Iglesias, le jeune chef de Podemos, qui l'a supplé, qui lui dit allez, on a besoin d'une candidature comme la tienne à la mairie de Madrid. Toute une série d'autres, des juristes viennent la voir, lui disent allez, il faut y aller, Manuela. Elle dit non. Et puis un jour, elle est à Valence. Où elle défend le film d'une jeune palestinienne qu'elle a vu, qu'elle trouve très beau, Et il y a un dîner après, et pendant tout le dîner, tout le monde s'indigne du fait que un des grands personnages du Parti populaire, un parti de droite espagnole, va encore une fois être élu maire. Elle revient à Madrid et elle apprend là, pareil, que la personne qu'elle appelle la lideresa, hein, la leader du Parti populaire de la région de Madrid, va se présenter et vraisemblablement va perpétuer 24 années de gouvernance du Parti populaire à la tête de Madrid. Et là, elle dit, ça y est, elle téléphone à ses jeunes amis, elle dit, j'y vais.
Et donc, ça va être un combat entre deux femmes.
Ça va être un combat entre deux femmes, mais alors là, je crois qu'il faut... voyez, on est tous un petit peu victimes, hein, des mots, de la sémantique. Et j'y repensais en revenant, je préparais en repensant un petit peu à tout ça. Je regardais ce que disait... Alors, chez nous aussi, on a des petites républiques nouvelles. Hein, dans la petite ville, je ne sais pas si vous avez lu ça, Alain, il y a eu un grand papier dans Le Monde récemment, dans la petite ville de Saillant, dans la Drôme, hein, 1200 habitants, ils ont pour la première fois élu comme ça une sorte de liste citoyenne, hein, Saillant autrement. Et alors les politologues, évidemment, français se penchent qu'est une liste citoyenne entièrement. Il n'y a pas de décision unique, il n'y a pas de maire. C'est les citoyens qui tournent et qui, avec des petits comités, prennent les décisions, gouvernent, hein, vraiment un pouvoir citoyen. Et Joël Zask, qui est une philosophe politologue, dit... Au fond, et je pense que c'est très intéressant par rapport à notre sujet, elle dit ces nouvelles expériences, ce nouveau rapport au pouvoir, cela nécessite de sortir de la culture du conflit, de cette image selon laquelle la politique doit être virile et consiste à sauter à la gorge son adversaire. Et vous voyez, on pense toujours, on va toujours vers le combat. Alors c'est un combat entre deux femmes. Oui et non. Et je pense que justement, Manuela Carmena ne s'est pas située là. Alors, elle n'est pas entrée dans un combat.
Précisément, hein, quand on lit le livre, effectivement, c'est l'idée qui en ressort, c'est que c'était un combat, mais elle refuse le combat en définitive.
Oui, elle refuse le combat.
Et elle le fait au nom d'un certain nombre de valeurs qui sont tout à fait bien décrites dans le livre. Alors, ce qui est frappant, c'est sa culture. Tout le livre est émaillé de citations, enfin, pas de citations, de références à des ouvrages. Bon, alors évidemment, Kant, vous le citiez, mais aussi à des romanciers, à des certaines situations, à des histoires. Et y a un concept alors, qui est central dans ce livre, c'est l'empathie.
L'empathie, oui. Elle pense alors beaucoup qu'il faut... enseigner les émotions, parce qu'elle a été juge, hein, donc elle a beaucoup baigné dans ce milieu, et elle sait, hein, que la notion d'empathie est cruciale. Elle sait, par exemple, elle développe des pages très très belles dans le livre sur la justice de classe. Hein. Elle dit, on est dans une justice de classe, on n'a pas... Alors forcément, quand on amène un jeune ouvrier ou un jeune migrant devant nos tribunaux, il sait que cette justice n'est pas faite pour lui, donc il faut aller à sa rencontre. Et elle pense, parce qu'elle parle énormément de violence, hein, aussi, elle pense que tous les grands comportements violents qu'elle a vus, hein, qui étaient parfois inattendus, sont nés de cette espèce d'incapacité à gérer ses émotions, hein, au fond. Et quand elle dit il faut changer, parce que c'est une entreprise de longue haleine, hein, comme elle n'est pas politique, elle ne parle pas ou elle ne conçoit pas forcément son rôle avec des termes politiques admis, connus, auxquels on a l'habitude de manier. Et justement, elle dit non, apprenons, entrons dans les écoles, apprenons aux enfants, enseignons aux enfants la notion d'empathie, mais d'empathie. Apprenons aussi aux enfants ce que c'est que la colère, pourquoi ils éprouvent de la jalousie face à un petit camarade qui vient de leur chipper leur pain au chocolat au goûter. Vous voyez, des petites choses comme ça qui font que peut-être on va pouvoir changer les mentalités, et les hommes ou femmes politiques d'aujourd'hui ne sont que le résultat de longues habitudes d'éducation, de gestion, de nos habitudes à nous. C'est le résultat quand même de mentalité. Et quand elle parle, hein, ce qui lui tient beaucoup à cœur, ce nouveau profil d'autorité qu'elle entend mettre en œuvre, hein, dans sa mairie, elle dit ce profil d'autorité, il est issu d'une culture non violente, féministe, mais qui ne veut pas dire à l'exclusion des hommes. Hein, c'est surtout pas ça, un profil d'autorité. Elle dit pas que les... Alors, le terme de culture hein, peut être, pour nos féministes qui débattent de l'essentialisme, du culturalisme, peut être sujet à critique. Et d'ailleurs, Michel Perrault, hein, qui a absolument voulu, qui a préfacé l'ouvrage, qui est très admiratif de ce personnage, insiste beaucoup là-dessus. Elle dit plutôt que culture, on devrait dire expérience historique. Au fond, les femmes, de par leur expérience historique, ont toujours été dans des situations où elles ont appris à gérer les sentiments des autres, les émotions des autres, les émotions des enfants, les émotions des hommes. Elles sont dans l'empathie, naturellement. Et c'est cette expérience historique que peut-être aujourd'hui, elles sont amenées à nous offrir, hein, à tous, à offrir au monde, aux citoyens, pour gérer un certain nombre de problèmes dont relève la politique. Je crois que ça, c'est neuf et c'est difficile, mais
voilà,
c'est passionnant.
Non, mais alors, ce qui est frappant, c'est que c'est effectivement difficile. Parce que quand tout à l'heure, on évoquait la confrontation, le conflit ou le combat, bon, c'est effectivement, soit le personnage paraît sympathique, soit il paraît antipathique. Alors là, on n'est plus du tout dans cette opposition sympathie-antipathie, on est dans l'empathie. Donc on est dans l'entre-deux, ni l'un ni l'autre... une espèce d'attitude à la fois proche et distancée en même temps. Et elle dit que c'est, à partir de là, que c'est la bonne distance pour apprécier les problèmes et les phénomènes et peut-être les résoudre. Mais en même temps, elle dit, c'est très long. Le changement va
évidemment
être
oui, et c'est
très,
ça qui est intéressant. Hein. C'est une femme, vous voyez, qui accepte... Récemment, je lisais encore une interview d'elle et elle disait... Moi, j'accepte de dire que j'ai tort, j'accepte de dire que je me suis trompée. Hein, et je crois que ça va tout à fait avec la manière assez extraordinaire dont elle a défendu sa candidature. Hein, j'aime beaucoup ça. Quand elle a décidé de devenir maire, c'est une femme qui n'aimait pas les... D'abord, elle n'aime pas les argumentaires. Elle a découvert qu'un maire, un personnage politique, il est au fond... l'objet de toute une série de documents, de brochures. On écrit pour lui, on fait son discours. Et ça, elle n'aime pas. Elle a dit, moi, j'aime pas parler, j'aime pas utiliser les mots des autres. Hein? Donc, ses argumentaires, elle n'aime pas. Et quand elle va... Elle n'aime pas non plus les grands meetings. Parce qu'elle dit, ces grands meetings, ça m'a fait... Bon, c'est une anti-franquiste,
oui,
hein, elle est un petit peu méfiante.
De
tristes souvenirs, les curés, elle dit, les meetings, pour moi, je les associe toujours à soit des curés sectaires, soit des débatteurs, de mauvais débatteurs à la télévision. J'aime pas ça. Donc, elle décide, quand elle est donc élue... appelée à défendre cette candidature, il y a déjà des programmes. Hein, des programmes à la mairie de Madrid qu'on fait, de jeunes gens pour eux. Et même, elle engage, hein, c'est assez drôle ce moment dans le livre, où elle engage un débat avec une très jeune femme. Hein, et cette très jeune femme qui est très fière de ce programme qu'on bâtit hein, au cours des mois de jeunes militants, elle lui dit, mais tu sais, Manuela, il y a un programme, hein, faut que tu sois conforme à ce programme. Et elle a toutes les peines du monde à lui faire dire, écoute, non, moi, ce programme, je me sens pas. Hein, au fond, ce que je suis, moi, je suis une voisine. Être mère, c'est être une voisine, c'est être comme la personne d'à côté qui habite à côté de chez vous. Et je vais aller me présenter devant les gens au niveau des quartiers, hein, comme si c'était comme pour un entretien d'embauche. Parce qu'au fond, je veux être maire, j'ai mon équipe municipale et je vais demander à ces gens pour qui, au fond, je suis appelée à travailler ce qu'ils attendent de moi. Et alors, elle loue une petite camionnette. Elle dit, heureusement, c'est l'été. Hein. Madrid, l'Espagne, c'est souvent l'été. On est souvent dans la rue, plus que chez nous. Donc, elle loue sa petite fourgonnette avec 100 chaises qu'elle entasse le ventre de la camionnette. Et elle débarque dans les quartiers. Elle sort les chaises. Elle invite les citoyens et elle débat avec eux. Et elle dit, ça, c'est vrai que c'est quand même un changement de programme. Et les gens sont assez surpris, d'ailleurs, parce qu'eux aussi s'attendent. Ils sont encore dans cette mentalité du conflit. Donc, beaucoup d'entre eux ont été engagés dans des grèves, dans des actions. Hein, c'est ces fameux indignés, beaucoup, qu'on a vus. Et ils sont tous surpris parce qu'au fond, ils voient une personne qui va vers eux et qui veut gouverner en écoutant.
Et alors, deuxième concept central dans son livre, la curiosité. Elle dit il faut être curieux de tout, faut pas avoir peur, il faut aller vers ce qui fait mystère et donc essayer de tirer des fils et de comprendre ce qui se passe. Et elle dit même il faudrait peut-être enseigner même la curiosité aux enfants en même temps qu'on leur enseignerait les sensibilités, etc. Alors évidemment, quand on lit ça, on se dit mais bon, voilà quelqu'un qui occupe une fonction politique éminente, parce que Madrid, c'est quand même la capitale de l'Espagne, et qui, avec des idées simples, a séduit les gens. Et alors, il y a un moment donné, elle est extrêmement sévère pour les grandes idéologies, et elle dit qu'au fond, et peut-être ça rejoint l'exemple du programme qu'elle discute avec la jeune fille, elle dit au fond, toutes ces grandes idéologies, ils ont voulu bâtir des systèmes, des programmes, et au fond, et tout en niant l'individualité. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont échoué.
Parce qu'ils n'ont
pas tenu compte que chaque individu avait peut-être sa part, son rôle à jouer.
Bien sûr, ça et l'imagination aussi beaucoup quand on revoit sa campagne. Alors ça, c'est vrai qu'on en rêve chez nous. Elle a en tout et pour tout comme argent à peu près l'équivalent de 150 000 euros. Quand on pense, aux millions que brassent nos politiques à nous, on est un peu surpris. Alors, elle fait appel au crowdfunding, les citoyens qui vont lui donner de l'argent pour aider sa campagne.
Souscription.
Voilà. Elle fait appel beaucoup aux bénévoles. Il y a toute une espèce de fièvre qui s'empare de Madrid, où on voit de jeunes graphistes bénévoles qui se mettent à dessiner ses affichettes, tout son matériel de propagande, si l'on peut dire. Les taxis, alors les jeunes gens parfois projettent sur les murs des bâtiments de Madrid le visage de Manuela. Elle n'est pas, revenons là-dessus parce que c'est assez important de le dire, elle a été vraiment élue par des plateformes citoyennes, pas seulement Podemos, qui soutient ce nouveau mouvement, donc d'un parti mouvement d'indignés, mais aussi de vraies plateformes, une plateforme de juristes, une plateforme beaucoup plus large. Alors ça commence par Ahora Madrid, aujourd'hui Madrid, et puis petit à petit ça dévie vers, vous parliez d'individualité, tout le monde favorise un peu cette nouvelle appellation Ahora Manuela. Tout le monde veut Manuela, et elle dit malgré moi, de façon un petit peu modeste, elle dit je deviens cette espèce d'icône du changement. Les jeunes gens aussi, les taxis collent sur leur voiture les affichettes. Et puis alors elle fait quand même deux beaux meetings, même si elle aime pas beaucoup ça parce que ça elle le veut. Un avec Pablo Iglesias pour rendre hommage à ce jeune homme, cette nouvelle génération. Elle le considère un petit peu comme son fils. Et d'ailleurs, récemment, elle nous a confié ça quand elle est venue en septembre à Paris pour aider au lancement du livre. Elle nous a dit « Oh oui, je suis allée le voir, je lui ai parlé comme un fils. » Je lui ai dit « Écoute, Pablo, maintenant, il faut que tu te calmes un petit peu. Peut-être que tu as un égo un petit peu trop en scène, manie un peu l'empathie. » Et bon, elle sait aussi faire des concessions, des arrêts. Elle sait que la négociation, c'est aussi une qualité dont ont beaucoup usé les femmes plutôt que le pouvoir qu'on impose, l'idéologie qu'on impose. Et elle fait aussi un grand meeting avec Ada Colau, dont elle est très proche, l'autre femme, la grande mère de Barcelone. Et ce meeting, évidemment, a de l'importance pour elle, puisque cette femme, Ada Colau, est tout à fait dans la même perception et conception politique qu'elle naît.
C'est d'ailleurs étonnant qu'un pays aussi, que l'on considère en tout cas comme aussi machiste, voit arriver au pouvoir deux femmes dans deux très grandes villes espagnoles.
C'était étonnant.
Comme quoi
Il ne faut pas se fier aux apparences. Et vous vous souvenez les très belles pages aussi sur le mariage catholique. Elle dit, voyez, nous, malheureusement, en Espagne, on est un peu tous modelés sur ce format du mariage catholique. Et alors, elle dit quand même, l'idée, la métaphore, c'est deux moitiés d'orange. Il faut être deux moitiés d'orange. Et elle soulève le fait que, évidemment, être deux moitiés d'orange, ça provoque des violences terribles dans un couple, parce que tout le monde n'a pas envie d'être la moitié de l'autre. Elle dit, c'est absolument insupportable. On est tous un, il y a une totalité, et au fond, se diviser en deux moitiés, non, ça ne peut qu'engendrer des violences.
Et ça ne peut pas faire un tout.
Et elle a ce très beau, vous vous souvenez, ce très beau poème qu'elle lit au... Mmh. Je ne sais pas si on a le temps, dans, enfin, vous reverrez le, dans le livre. Elle récite un très beau poème d'un Palestinien, je crois, ou Libanais. Libanais. Où elle dit, oui, d'accord, mariez-vous, mais gardez votre solitude et votre part de, et votre totalité.
Elle se définit quelque part, et ça, je trouve ça merveilleux, comme une femme politique occasionnelle.
Ah oui, ça c'est merveilleux.
Ça c'est...
Oui. Bon, c'est vrai qu'elle
a beaucoup de leçons à prendre.
Voilà, tout à fait. Elle est à 71 ans. Bon, d'abord, je pense qu'elle n'a pas envie de faire de mandat. Hein. Elle se considère un petit peu âgée pour ça. Mais surtout, elle dit non, moi je suis au service. On m'a engagée pour 4 ans. Je vais faire mon boulot pendant 4 ans, je vais donner des impulsions, et puis ensuite, je fais marche arrière. Alors, en Espagne, il y a beaucoup de gens, on était avec son... Quand elle est venue à Paris, elle était avec son jeune directeur de cabinet, hein, Felipe Llamas, et à un moment, on lui a dit, mais alors, au fond, Manuela, vous résoudriez peut-être la grande crise politique espagnole, ça ne vous dirait pas d'aller plus haut. Alors bon, non, moi ça ne m'intéresse pas du tout, mais à ce moment-là, on a vu son chef de cabinet, 40 ans, qui dressait l'oreille. Il nous a dit, ah si, on en a parlé, ça serait formidable. Mais apparemment non, elle n'a pas envie. Elle veut faire ses 4 ans, hein, bien servir son peuple, hein, madrilène, le peuple de Madrid, et surtout bien gérer. Elle dit, moi je n'ai jamais pensé que faire de la politique, c'était autre chose que produire une bonne gestion. Hein. Ce n'est pas forcément avoir des grandes idées, c'est vraiment gérer une ville
dans
au service
de ses
et
habitants.
Dans l'intérêt de ses habitants.
Le livre a été écrit à quel moment par rapport à l'élection ?
Alors le livre a été écrit quelques années avant l'élection.
C'est ça.
Et quand on a voulu on était au courant de ce livre, donc on est allé, on voulait le publier, on pensait qu'il était très passionnant. Alors c'est vrai qu'on l'a élagué aussi de passages peut-être un petit peu difficiles pour un public français, très très espagnol, hein, notamment surtout les problèmes de juridiction, de terrorisme, de l'État, l'ETA, hein, dont elle parlait beaucoup puisqu'elle a été elle a baigné là-dedans. Donc on l'a élagué de tout ça et surtout on est allé à Madrid lui demander si elle pouvait écrire donc spécialement pour cette édition-là le dernier chapitre comment je suis devenue maire de Madrid, et elle s'est prêtée magnifiquement à l'exercice.
Oui.
Et je crois que c'est un bel enseignement dont on pourrait que nos politiques, y compris municipaux...
C'est merveilleux parce que le dernier chapitre finit aussi par un poème.
Oui, c'est
un très très beau poème d'ailleurs.
Un magnifique poème.
Alors, tout le livre est quand même influencé, en tout cas, il tire ses ressources, un certain nombre d'exemples, de son expérience de magistrate quand même.
Oui, ça absolument. Hein,
cette gestion juste,
l'idée de justice, l'idée de réparer par la justice. Elle pense que beaucoup de choses passent par là. Hein, le droit, pour elle, la politique, c'est aussi une... et là, il faut revenir au... Vous vous souvenez de ce que disait Thomas Jefferson de la démocratie ? Ce qui compte, c'est la constitution et la participation. Et je crois, la Constitution, le droit juridique, le respect du droit, hein, et aussi cette participation sans laquelle on ne crée pas une démocratie. Et aujourd'hui, je crois que malheureusement, hein, on sent que ce refus de participation par
textes,
dégoût
d'une grande partie... Les textes sans la participation n'ont aucun sens.
Voilà. Et là, je crois qu'elle donne vraiment l'exemple, hein, d'une certaine manière, d'une femme qui a à un moment senti qu'elle devait participer, que son devoir était là, hein, que c'était un problème de conscience, essentiellement.
Mais on voit aussi que c'est par rapport à son enfance. Elle raconte, il y a de très belles pages sur son enfance où elle dit que l'injustice lui faisait horreur et probablement que ça a décidé peut-être de sa carrière de magistrat. Et dans ce qu'il a décidé à être candidate, certainement aussi, ce sentiment
c'est
de...
C'est une femme juste, une juste d'une certaine manière, mais qui en même temps mêle cet engagement féminin. Là, je pense que peut-être on a encore une petite seconde, mais j'aime beaucoup dans la préface de Michel Perrault, cette réflexion. Absentes de la scène publique d'où elles étaient exclues, réduites au silence dans la cité, les femmes ont ainsi fabriqué d'autres comportements, éplé l'alphabet d'une autre histoire secrète, circulant souterrainement comme dans un relief calcaire où les pertes ressurgissent en sources surprenantes. C'est vrai partout, mais plus particulièrement dans les régimes totalitaires qui interdisent et refoulent toute contestation. L'Espagne en donne l'exemple. Et Manuela est issue de cette généalogie qu'elle représente avec éclat. Hein, vous voyez, elle parle aussi de cette injonction, de la sourde résistance aux injonctions de la domination masculine, d'attention aux choses du quotidien, hein, du soin, le care, comprend des corps fragiles, des vies dévastées, des intérieurs ruinés, des espoirs en fuite, des gestes modestes et efficaces, que des pratiques domestiques et invisibles, transmises dans l'ombre des maisons, ont peu à peu forgé. Et je crois que c'est de ça qu'elle émerge, hein, avec en plus cette grandeur, hein, de sa propre expérience historique. Et je crois que les Espagnols ne se sont pas trompés. Hein. Ils ont à la fois combiné. Hein, aujourd'hui, on dit on veut des hommes et des femmes normaux, peut-être, au sens où Emmanuela l'incarne dans la gestion d'une ville. Oui. On peut dire que c'est une sorte d'attention à la banalité. Mais en même temps,
c'est une personne très singulière.
C'est une personne très singulière, hein, qui a construit sa liberté, qui a construit sa résistance, qui a construit sa révolte, et qui n'est pas du tout l'équivalent de nos hommes normaux.
Ou dit-elle. Merci beaucoup, Sylvie Crossman, de nous avoir présenté et parlé de ce beau livre que vous éditez donc aux éditions indigènes de Manuela Carmena, maire de Madrid, parce que les choses peuvent être différentes, avec une préface donc de Michel Perrault. On trouve évidemment ce livre dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, ainsi s'achève ce premier numéro de la nouvelle série de Gulliver, qui donc c'est un peu raccourci, mais qui nous permettra d'entendre pleinement tous nos invités jusqu'au bout. Merci, à la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.